Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi.
Salut, dans le podcast aujourd'hui, je reçois Isabelle Morin, qui est nutritionniste, qui suit beaucoup d'athlètes de tous les niveaux, surtout en course à pied. Donc, elle va nous donner des petits conseils sur quoi manger avant, pendant, puis après un entraînement. La base, dans le fond, de ce que vous devez savoir pour bien vous entraîner, bien manger et bien récupérer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à En action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Mon nom, c'est Daniel Rioux, kinésiologue. Aujourd'hui, on reçoit une nutritionniste, Isabelle Morin. Bonjour Isabelle.
Salut Daniel, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, merci.
Alors, on est vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Là, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Puis, j'ai une question pour commencer. Là, c'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de la nutrition?
J'ai toujours été super intéressée par l'alimentation, la cuisine aussi. Quand j'étais plus jeune, j'allais là, dans la cuisine aider ma mère. Puis j'étais beaucoup aussi à l'adolescence dans tout ce qui était préparer des desserts, le côté plus sucré. Fait que j'ai eu très jeune de cet attrait-là pour l'alimentation. Puis tout ce qui était le volet science aussi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup à l'école, le côté académique, là, la biologie, la chimie. Donc au cégep, ça m'a amené un petit peu justement à me questionner sur qu'est-ce que je voulais faire, quelles étaient mes passions, mes intérêts et pourquoi ne pas combiner l'alimentation avec la science. Donc nécessairement, ça mène vers la nutrition. Et puis ça fait longtemps aussi que je fais de la course. Moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans dans un club à faire là, de l'athlétisme. Donc, le volet aussi, plus nutrition sportive, la santé à travers tout ça, c'était aussi quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur là, depuis quand même longtemps. Donc, ça a influencé un petit peu mon choix aussi.
OK. C'est intéressant. Avec quel club d'athlétisme est-ce que tu as commencé?
J'ai commencé avec le club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion. Donc, j'habitais dans l'ouest de Montréal à ce moment-là, à l'adolescence. Puis, je me suis envenue dans la région de Québec pour l'université parce que je voulais courir là, avec le Rouge et Or. Donc, c'est une des raisons là, qui m'a fait déménager à Québec. Puis, j'y suis restée là maintenant.
Cool. Puis, par curiosité, là, en termes de course à pied, c'est quoi tes distances préférées? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Est-ce que c'est courir en sentier, courir sur une piste? C'est quoi tes préférences?
La piste, j'ai mis ça un petit peu de côté. Ça a été plus là, mes années, l'adolescence jusqu'à l'université avec le Rouge et Or. Là, je fais plus de la route, vraiment pour le volet compétitif, surtout du 5, du 10 km. C'est vraiment plus les distances là, que je préfère. La course en sentier, j'aime ça, mais vraiment comme activité pour le plaisir d'être dans la nature, de remplacer une randonnée pédestre par quelque chose d'un peu plus dynamique, d'un peu plus actif. Donc, ça, je trouve ça vraiment super pour découvrir, mais plus d'un point de vue personnel qu'en compétition.
D'accord. Merci, j'ai bien compris. Aujourd'hui, dans le fond, là, on va se pencher sur une question en fait, qu'on se fait vraiment souvent demander tu sais, dans le cadre du défi entreprise ou des événements qu'on organise. Les gens se préparent pour ces entraînements-là, pour ces événements-là. C'est une bonne nouvelle. Puis, ils veulent savoir souvent quoi manger avant, pendant, après leur entraînement. C'est quoi les bonnes pratiques? Comment s'aligner pour ça? Fait que c'est ça qu'on va essayer un petit peu de décortiquer aujourd'hui. Oui. T'aurais-tu comme des grandes lignes, mettons, à nous suggérer?
Oui, ben je pense que le message clé à vraiment retenir, c'est aussi qu'on veut adapter notre apport énergétique en fonction de la dépense qu'on prévoit avoir à l'entraînement, que ce soit avant, pendant ou après aussi. C'est-à-dire que si je m'en vais faire une petite séance, un jog, où je sais que je vais être à une intensité confortable pour une durée relativement courte, j'aurai pas nécessairement les mêmes besoins avant, pendant, après, que si je prévois faire une longue sortie ou une séance avec des intervalles, quelque chose de plus intensif. Donc, je vais vouloir peut-être adapter justement mon avant, pendant, après en fonction de la séance que je vais faire. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir regarder peut-être un petit peu plus en détail aujourd'hui, comment j'adapte là, ces entraînements-là. Puis, selon le moment aussi de la journée, si je m'entraîne de très tôt le matin versus en fin de journée, il y a aussi des adaptations qu'on peut venir faire au niveau alimentaire pour être sûr d'avoir de l'énergie à l'entraînement. Parce que c'est ça, le but aussi, c'est de se sentir énergique puis d'avoir du plaisir quand on va s'entraîner là, au final.
OK. Si on commence par le avant, ce serait quoi les recommandations avant un entraînement? Moi, des fois, j'entends dire qu'il faut manger 3 heures avant un entraînement. Des fois, il faut manger une banane. C'est quoi les bonnes recommandations?
Comment on gère ça? En fait, le 3 heures, là, c'est plus pour un repas complet. Donc, un repas complet qui contient des protéines, qui contient une portion de féculents, donc de glucides, puis des légumes. Là, on va considérer un 3-4 heures de digestion. Surtout parce que les protéines, c'est un nutriment qui est quand même plus long à digérer. Donc, on ne veut pas finalement manger une grosse portion de protéines 1 heure avant d'aller courir, parce qu'on risque d'être vraiment plus inconfortable là, d'un point de vue digestif. Donc, on garde en tête un repas complet 3-4 heures avant l'entraînement. Maintenant, si je prévois de dîner vers midi, puis que je sais que mon entraînement va être à 5 heures le soir ou à 6 heures le soir, ben, mon dîner, il me supporte pour 3-4 heures. C'est-à-dire que vers peut-être 4 heures l'après-midi, ça peut être pertinent de penser prendre une collation pour mon entraînement qui est un petit peu plus tard. Donc, c'est de voir à ce moment-là une collation. Si je prends une collation un petit peu plus copieuse qui contient des glucides et des protéines, donc on peut penser par exemple à un bol de céréales avec du lait ou du yogourt ou un muffin avec un morceau de fromage, ben ça, ce genre de collation-là, on veut se laisser plus un 2 heures de digestion. Et si on a un délai plus court, donc 1 heure ou moins, là, on va vraiment y aller juste avec une source de glucides. Donc, fruits, produits céréaliers. Et plus on est près de la séance d'entraînement, 30 minutes, 20 minutes, plus on veut aller avec des sources de glucides faciles à digérer. Compote de fruits, bananes, à la limite une boisson sportive si on est très, très près de la séance. Donc, il faut voir que les glucides, c'est le carburant de mes muscles pendant mon entraînement. Donc, c'est vraiment ça que je veux m'assurer d'avoir dans mon assiette ou dans ma collation avant l'entraînement. Et si j'ai quand même un certain délai entre le moment où je mange et l'entraînement, je vais être rassasiée suffisamment longtemps pour me rendre à ma séance. Donc, c'est là où on peut penser d'ajouter des protéines. Mais donc, de manger des protéines très, très près de l'entraînement ou des matières grasses, même si ce sont de bons aliments, hein, une poignée de noix, c'est une belle collation, mais 30 minutes avant d'aller s'entraîner, c'est pas ça qui va m'amener de l'énergie. Donc, c'est juste de voir à choisir les bons aliments au bon moment.
OK. Fait que si, mettons, moi, je suis une personne, là, je dîne, là, puis après, déjà 3 heures après mon dîner, là, j'ai déjà faim, ce ne serait pas une mauvaise chose de tout de suite prendre une collation, comme, puis de me garder comme avec un niveau de satiété comme égal au courant de la journée.
Exact. Exactement. Donc, si on prend ton exemple, tu dînes un repas complet, bien équilibré à midi, à 3 heures, tu as faim. Tu sais que tu as un entraînement peut-être à 6 heures, mais à 3 heures, tu pourrais prendre une bonne collation, un fruit, une barre tendre avec un yogourt grec. C'est-à-dire, ah ben à 5 heures, 1 heure avant mon entraînement, je vais reprendre juste un fruit ou une petite compote ou juste quelque chose qui contient des glucides pour m'amener de l'énergie, là, puis être sûr de ne pas avoir faim pour ma séance à 18 heures.
Si je m'entraîne vraiment tôt le matin, là, je m'entraîne, puis la première chose que je vais faire, c'est me lever. La première chose, après m'être levé, oui.
Oui.
Après m'être levé, je vais aller courir, mettons.
Donc, je sors du lit, je saute dans mes souliers, puis je vais courir. Ouais. Donc, c'est de voir un petit peu, c'est quoi cette séance-là? Si les gens font une séance à basse intensité, qui n'est pas de trop longue durée, donc 1 heure ou moins, il n'y a vraiment aucun problème à faire la séance à jeun. Donc, si on est confortable avec ça, puis il y a beaucoup de gens qui sont quand même confortables puis qui sentent bien à faire une séance à jeun, il n'y a aucun problème de se lever, prendre un petit verre d'eau, puis partir courir. Si jamais on se sent peut-être un petit peu moins à l'aise de partir comme ça, on sent qu'on va manquer d'énergie, on peut vraiment y aller avec, encore là, une source de glucides. Un peu comme ma collation que je prendrais là, 1 heure ou moins avant mon entraînement. Donc, je peux juste grignoter un fruit, ma compote de fruits ou d'avoir même un petit verre de jus, puis partir. Il y a certaines personnes qui vont partir à jeun, mais privilégier de s'amener aussi une boisson sportive ou un gel ou une pâte de fruits, quelque chose qui va pouvoir leur donner de l'énergie pendant leur séance. C'est une autre bonne solution aussi. Puis dans tous les cas, que j'aille manger un petit quelque chose avant, que je sois partie à jeun, qu'on veut surtout s'assurer c'est le après. Puis on pourra en reparler là, tout à l'heure du après. Mais si je fais une séance à jeun, c'est vraiment important de ne pas rester à jeun plusieurs heures après l'entraînement puis de prévoir un déjeuner complet.
OK. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre un café mais si je m'entraîne tôt le matin, juste avant mon entraînement?
Oui, bien la caféine, en fait, c'est un des suppléments qui est les mieux étudiés, les plus reconnus là, dans la performance pour justement venir donner un petit coup de pouce là, au niveau de la performance. Donc, ça diminue un peu notre perception d'effort. Et oui, ça peut nous donner là, des meilleures sensations à l'entraînement. Donc, effectivement, si je suis habituée de prendre du café, que je sais que c'est quelque chose qui passe bien pour moi, qui ne m'occasionne pas de troubles digestifs, parce que certaines personnes qui vont avoir là, des troubles digestifs avec le café, c'est quand même une substance qui peut être un peu irritante pour le système digestif. Mais si on sait qu'on n'a pas de problème, le café, c'est une bonne idée pour se donner un petit coup de fouet des fois là, pour partir.
Ouais. Parfait. Fait que c'est pas absolument nécessaire de manger ou de boire un jus d'orange avant d'aller courir le matin. J'imagine que quand on commence ça, faut par contre y aller avec des séances peut-être des fois un peu plus courtes. Là, tu sais, si je suis habitué de courir, mettons, des 5 km, la première fois que je vais aller courir à jeun, ben ça se peut que j'aie pas de l'énergie pour tout mon 5 km au complet.
Exact. Moi, je proposerais quand même aux gens là, qui décident de débuter l'entraînement à jeun, d'y aller avec des séances un petit peu plus courtes pour commencer, quitte à aussi juste s'amener un petit pâte de fruits ou un petit quelque chose de sucré avec eux. Ça peut être des bonbons, hein? Mais juste si jamais on est à 2 km de la maison, qu'on se sent moins bien, un petit peu en hypoglycémie, juste d'avoir un petit quelque chose de sucré pour se redonner un petit coup de pouce le temps de revenir à la maison, ça peut être sécurisant. Puis c'est ça, de commencer avec des séances plus courtes, puis d'y aller progressivement en augmentant. Et de garder en tête, si j'ai une séance d'intervalle, quelque chose à haute intensité ou une sortie qui est beaucoup plus longue, là, parce que des fois, on le sait, on a des longues sorties à faire, ben là, je privilégierais quand même de prendre vraiment un petit déjeuner ou quelque chose avant de partir là, pour être sûr d'avoir assez d'énergie.
OK. Puis, est-ce qu'il y a des bénéfices à courir à jeun? T'sais, ça, on entend ça souvent, là, que, mettons, courir à jeun, ça va nous aider à perdre du poids. Ah, je pense pas que ce soit vrai, là. Tu me corrigeras si je me trompe, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a, il pourrait avoir des bénéfices, tu sais, sur la mobilisation des gras comme source d'énergie?
Oui. Ben, effectivement, comme tu le dis, là, pour commencer, au niveau de la perte de poids comme telle, courir à jeun, il n'y a aucun effet bénéfique démontré. C'est-à-dire que quand on regarde après dans la journée complète, les gens vont nécessairement remanger un apport calorique qui va être similaire à ce qu'ils avaient déjeuné avant plutôt que d'aller courir à jeun. Donc, dans la perte de poids comme telle, c'est pas démontré là, que le fait de s'entraîner à jeun va être plus bénéfique que le fait d'avoir mangé avant la séance. Par contre, oui, il peut y avoir certains effets bénéfiques, comme tu le disais, au niveau de la mobilisation des graisses. Puis là, c'est là où des fois les gens confondent un peu. C'est pas parce que je mobilise les graisses que nécessairement ça va aider à ma perte de poids. Donc, c'est vraiment plus de voir pendant mon effort, le corps va devenir un petit peu plus efficace à utiliser les lipides comme carburant énergétique. Parce que à basse intensité, le corps utilise à la fois des glucides et des lipides pour fournir de l'énergie aux muscles dans des proportions variables. Quelqu'un qui est un coureur là, de très haut niveau va à basse intensité mobiliser davantage de lipides, va avoir des adaptations qui lui permettent de mobiliser davantage de lipides dû à son bagage d'entraînement qu'un nouveau coureur qui, lui, dès qu'il se met à courir, va tout de suite mobiliser beaucoup plus de glucides. Donc, c'est vrai que le fait de s'entraîner à jeun peut nous aider à développer un petit peu là, ces adaptations-là à mobiliser davantage les lipides à basse intensité pour fournir du carburant à nos muscles, en plus des glucides. Maintenant, c'est de voir est-ce que ce phénomène-là a vraiment un effet sur notre performance. Pas nécessairement. Donc, de voir qu'à basse intensité, j'arrive à mobiliser davantage de lipides, on n'a pas nécessairement réussi à transposer ça comme étant bénéfique sur la performance, surtout dans des distances plus courtes. Sur des distances d'ultra. Donc, je pense là, par exemple, à ceux qui font de la trail, les 80, 100, 160 km. Là, ça peut devenir des adaptations qui sont bénéfiques, d'être capable de mobiliser les graisses parce qu'à un moment donné, je suis juste pas capable de manger assez pour compenser tout ce que je dépense là, sur ce genre d'épreuve-là. Par contre, si je m'entraîne pour un 5, un 10 km, un demi-marathon ou même un marathon, dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessairement des adaptations qui sont si bénéfiques que ça. Donc, sur des courtes distances, de 5-10 km, ben, l'intensité de l'effort est quand même élevée quand on est en compétition. Donc, le corps utilise vraiment juste les glucides à ce moment-là. Je n'ai pas besoin de ces adaptations-là pour ma performance.
Donc, pour la plupart des gens, ça peut être un choix adéquat d'aller courir, mettons, à jeun le matin, mais surtout si c'est plus pratique. Dans le fond, la grosse décision que j'ai à prendre, c'est est-ce que c'est plus pratique pour moi de courir le matin que de courir le soir? Puis si oui, ben courir le matin à jeun ou pas, ben c'est bien.
Tout à fait. Non. Oui. Moi, je le vois vraiment dans un côté pratico-pratique dans mon quotidien. Est-ce que c'est plus facile à rentrer dans mon horaire à ce moment-là. Il y en a qui vont aussi préférer la sensation qu'ils vont avoir de courir à jeun le matin versus des fois on est plus fatigué en fin de journée. On a peut-être là, plus de difficultés à gérer son alimentation selon l'emploi qu'on a. Des fois, c'est pas toujours facile de planifier avoir sa collation exactement 2 heures avant l'entraînement. Donc, il y en a certains qui, pour ces raisons-là, trouvent que à jeun le matin, ça passe mieux. Donc, ça peut être des bonnes raisons aussi. Mais de là à dire on le fait pour des adaptations, pour notre performance ou pour la perte de poids, ça n'a pas là, vraiment d'impact dans la plupart des contextes.
OK. Puis, est-ce que boire du Gatorade versus une autre source de glucides, là, je parle du Gatorade là, surtout pour l'apport en sel que ça va amener, est-ce que ça a un avantage ou est-ce que, dans le fond, on n'a pas nécessairement besoin d'une source de sodium avant de partir pour un entraînement?
Donc, avant de partir pour un entraînement, tout ce qu'on veut, c'est de boire pour ne pas ressentir la soif au début de l'entraînement. Donc, d'éviter d'être déshydraté déjà en commençant notre séance. Puis de l'eau va être vraiment amplement suffisante. Je disais là, récemment, justement, des études qui mettre un petit peu le point là, sur justement ces fameux apports en électrolytes-là. On en entend beaucoup parler, l'importance des électrolytes. On voit des capsules de sel même et tout. Puis finalement, ce qui ressort comme évidence, c'est que dans la plupart des cas, on n'en a pas besoin des électrolytes. Puis que juste de boire de l'eau selon notre soif, notre corps va réguler vraiment bien là, son niveau d'hydratation. Puis finalement, de par notre alimentation, on consomme déjà beaucoup de sel, puis les besoins en électrolytes pendant des efforts de relativement courte durée ne sont pas nécessaires. Donc, le fait vraiment de supplémenter en électrolytes puis en sodium peut devenir pertinent là, sur des épreuves de plus de 4 heures si on est quelqu'un qui transpire abondamment puis qui perd abondamment du sodium. Si je vais m'entraîner pour moins que ça, donc moins de 4 heures, pas nécessairement besoin d'avoir une préoccupation particulière pour mon apport en électrolytes.
Parfait. Ben, je pense que ça complète pas mal le pré-entraînement. Pour l'entraînement lui-même, comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'il faut absolument se traîner une petite bouteille d'eau? C'est quoi tes recommandations?
Donc, le côté, en fait, hydratation à l'effort, moi, je voudrais, si vous partez pour un rang de 1 heure et moins, si vous avez bien bu avant, que vous n'avez pas soif en débutant l'entraînement, dans la plupart des cas, pour un entraînement d'une heure, vous allez être correct. Vous buvez avant, vous buvez en revenant. À moins qu'on soit peut-être là, l'été, une journée de canicule, il fait vraiment très, très chaud. Là, ça peut être des fois intéressant d'avoir quand même quelque chose pour s'hydrater si on sait qu'on prévoit peut-être aller courir sur notre heure de dîner à 30 degrés au gros soleil. Ça peut être aussi des fois intéressant de juste avoir un parcours sur lequel on sait qu'il y a une ou deux abreuvoirs, puis où on peut s'arrêter. Sinon, si on part pour plus longtemps, oui, là, ça peut être des fois pertinent d'avoir justement là, une bouteille d'eau avec soi pour être capable de s'hydrater au besoin si on ressent la soif pendant notre entraînement. Et comme je disais, souvent, là, jusqu'au milieu de l'automne, du moins, on a quand même là, les fontaines d'eau qui sont accessibles à plusieurs endroits dans la ville. Donc, ça peut être aussi de se faire un parcours où on sait qu'on peut arrêter à quelques endroits. Puis, si on sait qu'on part longtemps et qu'on n'aura pas accès à une fontaine, ben là, oui, on peut prévoir de s'amener de l'eau.
Fait que si je pars pour mon entraînement, mettons, je vais faire un 45 minutes, je reviens, puis là, j'ai soif. Est-ce que ça veut dire que mon entraînement aurait pu être j'aurais pu être plus performant durant mon entraînement si j'avais bu, parce que là, mettons, la soif me ralentit, ça veut dire que je suis déshydraté.
Mais la déshydratation, on voit que finalement, on peut quand même perdre un certain pourcentage de notre poids en déshydratation avant d'avoir un impact réel sur la performance. Donc, dans plusieurs études, 2 à 3 % de perte de poids. Donc, vous pesez juste avant de partir, vous pesez juste en revenant, idéalement sans les vêtements, parce que les vêtements absorbent une partie de la sueur. Donc, la fluctuation du poids, ben, c'est de l'eau qu'on a perdu essentiellement. Donc, si on perd 2-3 % de notre poids pré-entraînement, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur notre performance. Au-delà de ça, ben, c'est sûr qu'on peut se dire, oh, ça aurait pu être pertinent de peut-être là, s'hydrater un petit peu pour avoir une perte de poids qui est modérée. Il faut quand même voir que quand on regarde la performance absolue là, chez des athlètes d'élite, des fois, on peut avoir des pertes de poids qui sont plus élevées que ça, puis avoir des performances de record du monde là, qui se font dans des contextes où les athlètes perdent 8-9 % de leur poids corporel. Donc, c'est sûr que là, on est avec une autre catégorie d'individus, mais c'est quand même intéressant de relativiser et de voir que peut être capable de performer, même si on a une petite déshydratation. L'objectif n'est pas d'aller vers une déshydratation importante non plus. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on met de l'avant que le fait de boire selon sa soif, ben, ça nous permet d'éviter d'être justement dans cet état de déshydratation-là qui aurait un impact négatif sur la performance. Puis de l'autre côté, ben, ça nous évite aussi de trop boire. Parce que de trop boire pour essayer d'éviter d'être déshydraté, c'est pas mieux non plus, puis ça peut mener aussi à d'autres problématiques là, si on se surhydrate.
Fait que, mettons que je cours moins qu'une heure, j'ai le goût, moi j'aime ça me sécurise d'avoir ma petite gourde avec moi. C'est pas un problème, je peux l'amener, sauf que j'ai pas à me forcer de boire aux 15 minutes, mettre mon timer sur ma montre, puis dire « Ah, là, je dois boire pour ne pas avoir soif. »
Exact.
Juste boire quand j'ai soif avec ma petite gourde, puis c'est correct.
Exact. Moi, je compare souvent ça à quand vous avez envie d'aller aux toilettes. Hein. L'hydratation, c'est un peu la même chose. Donc, vous ne mettez pas une montre avec un chronomètre pour dire aux 20 minutes, il faut que je passe aux toilettes, voir si je n'aurais pas envie. On y va quand on a envie. Ben, l'hydratation, c'est un peu la même chose. On va boire selon les signaux que notre corps va nous envoyer. Donc, oui, ça nous sécurise de partir avec notre bouteille parce qu'on ne sait pas si on va croiser une fontaine d'eau sur le parcours. On ne sait pas s'il fait très chaud. Bon, peut-être qu'on va avoir soif. Donc, oui, on peut partir avec notre bouteille. Puis, quand on a soif, ben, elle est à disposition. Puis, on peut s'hydrater à ce moment-là selon le besoin qu'on ressent.
Je fais une petite parenthèse sur la vie de tous les jours. Là. Mettons que je vis ma vie de tous les jours sans nécessairement ressentir régulièrement la soif. Là, oui. Mettons, là, je vais parler pour moi, mais mettons, j'ai pas tout le temps une bouteille d'eau à côté de moi, puis je bois pas une gorgée d'eau à toutes les 30 minutes ou les 15 minutes. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que je peux arriver déshydraté à un moment donné, puis là, oups, ressentir la soif, boire un grand verre d'eau, puis genre passer à autre chose? Ou est-ce que je serais mieux de comme me forcer un petit peu à avoir tout le temps de l'eau proche de moi pour en boire plus souvent?
Mais il faut voir que l'hydratation au quotidien, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Donc, oui, il y a l'eau qu'on boit dans la journée qui va contribuer à notre hydratation, mais aussi tous les aliments qu'on va consommer. Donc, si on mange beaucoup de fruits, de légumes dans notre alimentation, c'est des aliments qui sont composés principalement d'eau, donc qui contribuent à, autrement dit, notre hydratation. Si je bois un café, si je bois un verre de lait le matin, ça contribue aussi à mon hydratation. Si je mange une soupe au dîner, ça aussi, ça rentre dans les liquides que je consomme, dans mon hydratation. Donc, des fois, on voit qu'on ne boit peut-être pas beaucoup d'eau, mais si on consomme beaucoup d'autres liquides dans la journée, ça peut là, contribuer aussi à l'hydratation. Et le corps est bien fait. Donc, lorsqu'on commence à avoir un taux d'hydratation qui baisse un petit peu, il va nous envoyer un signal et à ce moment-là, on va ressentir la soif. On va prendre, comme tu disais, un grand verre d'eau. Et on va être correct pour continuer notre journée. Donc, la fameuse recommandation, c'est de boire 8 verres d'eau par jour. Quand on regarde scientifiquement parlant, qu'on essaie de trouver de où ça vient, ben, il n'y a pas une étude qui a donc, vraiment prouvé qu'on avait besoin de 8 verres d'eau par jour. Donc, c'est vraiment de voir à respecter ces signaux-là, tout simplement, dans la journée.
OK. Puis, si je reviens à pendant l'entraînement, là, mettons que j'ai un entraînement qui est plus long, est-ce que, tantôt tu disais, les capsules de sel, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a à intégrer. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à intégrer dans des entraînements qui vont être plus longs qu'une heure ou deux heures?
Oui, bien, quand je commence à dépasser là, le 1h30, donc quand je suis autour de 1h30 ou plus, c'est sûr que là, je veux m'assurer de ne pas manquer d'énergie. Donc, tantôt, je disais, les glucides, c'est le principal carburant de mes muscles pendant un effort physique. Eh bien, après 1 heure et demie, mes réserves de glucides, donc ce qu'on appelle le glycogène, qui est les réserves de glucides emmagasinées dans mes muscles, bien, généralement, après 1 heure et demie, on commence à arriver pas mal au bout de ces réserves-là. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer de s'alimenter pendant notre effort pour éviter d'arriver au bout de nos réserves énergétiques et de frapper le mur. Donc, c'est peut-être déjà arrivé à certains auditeurs là, de partir pour une sortie de 2 heures, puis de dire ah, « les 20 dernières minutes ont été vraiment pénibles, je sentais que j'avais plus d'énergie ». Plus capable de maintenir l'intensité. Donc, c'est sûr que là, si j'ai plus de glucides au niveau de mes réserves énergétiques, le corps doit aller puiser plus dans ses lipides. Et ça demande beaucoup plus là, d'oxygène au corps. C'est un métabolisme qui est un petit peu plus difficile là, en branle, qui se fait à une intensité plus basse généralement. Donc, on sent qu'on frappe le mur, on n'est pas capable de soutenir là, notre effort. Donc, le fait de commencer à manger un petit peu plus tôt dans ces sorties-là va être bénéfique pour maintenir un bon niveau d'énergie. Donc, on va vouloir aller chercher des sources de glucides simples qui vont bien digérer pendant un effort physique. Donc là, on peut penser aux boissons sportives, au gel énergétique, aux pâtes de fruits aussi. Ça peut être des fruits séchés également, qui sont là, des bonnes options de glucides simples. Des petits bonbons aussi, une compote de fruits, c'est le genre de choses qu'on va trouver à l'épicerie. On n'a pas nécessairement toujours besoin d'aller vers le produit conçu là, de nutrition sportive pour les athlètes. Moi, j'achète souvent là, les barres de pâtes de fruits à l'épicerie, puis ça fonctionne super bien aussi.
Juste pour être sûr, là, les barres de pâtes de fruits, c'est mince.
Les fruits, il y a les petits fruits to go. Ceux-là sont petits un peu. Il y a les barres fruits sources qui s'appellent. Là, on est plus sur un 30 g de glucides par barre. Donc, c'est vraiment une purée de fruits qui est comme un peu gélifiée en pâte. Alors, de gros bonbons faits à base de fruits. Puis, ce qu'on vise, c'est d'avoir au moins un 30 g de glucides par heure. Donc, on peut viser entre 30 et 45 g de glucides par heure. Si l'intensité de l'effort est vraiment très élevée, on peut même aller jusqu'à 60 g de glucides par heure. Mais je dirais aux gens là, qui veulent débuter l'alimentation à l'effort, de vraiment commencer avec autour d'un 30-35 g de glucides par heure, voir leur tolérance digestive, voir l'effet que ça a sur leurs sensations, leur performance, puis d'augmenter là, par la suite aux besoins progressivement les apports.
Est-ce que je me trompe ou, mettons, si je veux consommer 30 grammes à l'heure, ça va être un petit peu plus facile de le faire sous forme plus liquide qu'en mangeant?
Bien, liquide ou semi-liquide, je dirais. Les gels énergétiques, c'est aussi des options qui nous permettent assez facilement là, d'arriver à cet objectif-là. La plupart des gels, on va tourner autour d'un 23 à 25 grammes de glucides. C'est souvent pour ça qu'on nous recommande de les prendre aux 45 minutes. Pour maintenir un niveau d'énergie qui est stable, puis justement nous permettre d'atteindre autour d'un 30 à 40 grammes de glucides par heure là, avec ces produits-là. Si je décide d'aller vers des gels ou des pâtes de fruits, l'idée, c'est de boire de l'eau en même temps qu'on le consomme, juste pour faciliter la digestion, pas avoir trop d'inconfort digestif. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, si je vais plus vers une boisson sportive, ben là, j'ai juste une chose à traîner, une chose à penser. Je consomme ma boisson qui amène à la fois les glucides et l'hydratation.
OK, parfait. Puis, des fois, on voit ça, là, des produits comme des gels ou des boissons énergétiques qui contiennent des suppléments là, comme des BCAA, les maltodextrines, des trucs comme ça. Mm. Honnêtement, je connais pas vraiment ça. Là. Je me suis pas beaucoup intéressé à ça. Est-ce que ça peut avoir un avantage sur la performance, sur la récupération après?
Ouais.
Pourquoi ça existe?
En fait, la maltodextrine, là, si on commence par ce produit-là, donc vous allez voir, justement, si vous regardez dans des gels énergétiques, dans certaines boissons, pas nécessairement dans le Gatorade, mais dans des boissons peut-être un petit peu plus spécialisées de nutrition sportive, vous allez souvent voir ce terme-là, maltodextrine. Qu'est-ce que c'est, en fait, la maltodextrine? C'est une forme de glucides. Donc, c'est finalement un petit polymère de glucose. Le glucose, c'est une unité très, très simple de glucides. Et lorsqu'on assemble quelques molécules de glucose ensemble, on va se retrouver avec justement une forme de maltodextrine. Donc, dans la plupart des boissons sportives, on va retrouver du glucose, du fructose, qui sont deux sucres simples, et dans certains cas, de la maltodextrine, qui est finalement également du glucose, mais sous une forme de polymère. L'avantage de la maltodextrine, c'est que ça n'a pas vraiment de goût sucré. Donc, si vous achetez juste une poudre de maltodextrine, vous diluez ça dans votre eau, ben, finalement, votre eau, elle ne goûtera pas nécessairement plus sucrée. Il y a un petit goût subtil, mais c'est très, très léger. Donc, ça permet, dans certains cas, justement, d'aller chercher un petit peu plus de glucides sans avoir quelque chose qui est très, très sucré au niveau de... Donc, ça, oui, c'est quelque chose d'intéressant là, qui peut être retrouvé dans certains produits qui, pour voir, ça nous amène des glucides, tout simplement. Côté BCAA maintenant, donc les BCAA, ce sont des acides aminés. Alors, les acides aminés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des constituants des protéines. Une protéine, vous voyez ça un peu comme un grand collier de perles. Chaque perle qui constitue ma protéine, c'est un acide aminé. Donc, il existe 20 acides aminés différents qui rendent la composition là, de toutes mes protéines. Et les BCAA, ben, c'est trois de ces acides aminés-là plus spécifiques qui ont une structure plus ramifiés dans la façon qu'ils sont construits. Et ce sont des acides aminés qui sont très impliqués au niveau de la synthèse de protéines musculaires, surtout la leucine, qui est finalement le principal BCAA qu'on va retrouver dans les suppléments. Donc, on a leucine, isoleucine et valine qui composent là, mes BCAA. Et la leucine, mais c'est vraiment un acide aminé qui va venir beaucoup là, influencer la signalisation au niveau de ma cellule pour stimuler la synthèse de protéines musculaires. Donc, pendant l'effort, il n'y a pas vraiment d'intérêt au BCAA. Après l'effort, oui, c'est intéressant d'avoir un apport en leucine élevé, un apport en BCAA élevé, mais ça ne sert à rien d'avoir seulement des BCAA si je n'ai pas toutes mes autres acides aminés pour construire des protéines. Parce que finalement, ce qu'on veut après l'effort, c'est récupérer, donc fournir des protéines au corps pour que finalement le corps ait à disposition tous les acides aminés qu'il a besoin pour construire de nouvelles protéines, réparer les fibres musculaires endommagées, aider le muscle à récupérer. Et si je lui fournis seulement trois acides aminés, ben, il n'y a pas nécessairement tous les matériaux qu'il a besoin pour reconstruire des protéines complètes. Donc, aller chercher des BCAA en récupération, pour moi, je vois ça un petit peu inutile. Je préfère aller chercher une protéine complète de bonne qualité. Donc, ça peut être sous forme de suppléments, par exemple, protéine de petit lait, la protéine de lactosérum qu'on connaît beaucoup sous le nom de la whey, qui contient dans sa composition beaucoup de leucine, donc beaucoup d'acides aminés essentiels, dont les BCAA, qui est une belle protéine en récupération. Si je veux aller plus du côté des aliments, ce qui est tout aussi intéressant, dans les suppléments, des fois, c'est plus le côté pratico-pratique, je peux le laisser dans le fond du sac de sport, puis ça ne périme pas. Mais si je veux plus travailler avec les aliments, un yogourt grec, un verre de lait, ça peut être très, très bien. Sinon, n'importe quel autre aliment protéiné, que ce soit un morceau de viande ou du tofu dans mon plat principal ou une collation avec un yogourt grec, avec une boisson de soya, donc avec un aliment protéiné de bonne qualité, ben, ça va tout aussi bien là, faire le travail.
OK. Ben, puis c'est quoi la quantité de protéines que je dois viser après? Puis est-ce qu'il y a un ratio entre les protéines et les glucides aussi qui doit être respecté suite à un entraînement?
Oui. Ben, si on regarde le côté récupération après l'entraînement, donc il y a deux aspects importants. Comme tu dis, il y a l'apport en protéines et il y a aussi l'apport en glucides. L'apport en glucides en récupération vise vraiment à reconstruire nos réserves de glycogène, donc les réserves de glucides que j'ai au niveau de mes muscles. Tantôt, je vous ai dit, ces réserves-là, ça prend à peu près une heure et demie avant de les épuiser. Donc, il faut voir que si je vais m'entraîner 20, 30 minutes, je n'ai pas nécessairement épuisé mes réserves de glycogène. Mon besoin de reconstruire ces réserves-là est différent que si j'ai été m'entraîner pendant une heure et demie ou deux heures. Donc, oui, on veut des glucides en récupération, mais toujours de manière proportionnelle à la durée de l'entraînement. Un petit peu la même chose du côté des protéines. Les protéines vont aider à, finalement, la récupération musculaire, à la synthèse de nouvelles protéines musculaires. Si j'ai été faire un entraînement très, très léger, je n'ai pas nécessairement beaucoup endommagé mes protéines musculaires, je n'ai pas nécessairement eu une grosse stimulation, versus si j'ai fait un entraînement par intervalle, un entraînement avec beaucoup de dénivelé ou une séance de musculation, où là, j'ai amené beaucoup plus de dommages au niveau musculaire, où finalement, ma récupération en termes d'apport en protéines est beaucoup plus pertinente à ce moment-là. Donc, si j'ai fait un entraînement, disons, très long, très intensif, puis que je veux vraiment une récupération optimale, là, on viserait au moins 20-25 grammes de protéines pour avoir là, vraiment un apport qui est adéquat. Et on veut généralement 3 à 4 portions de glucides pour une portion de protéines. Donc, 3 à 4 parts de glucides pour une part de protéines.
Puis, eh bien, juste pour me donner une idée, là, mettons 25 grammes de protéines en termes de poulet ou de lait ou de whey, ça ressemble à quoi, mettons?
Oui. Donc, en termes de whey, là, un supplément, c'est une mesure. Donc, généralement, là, dans notre pot de protéines, on nous met une espèce de petite scoop. Donc, une scoop de whey, de protéines de lactosérum, c'est 25 grammes de protéines. Si j'y vais plus en termes d'aliments, donc un verre de lait standard, là, un 250 ml, c'est 8 grammes de protéines. Donc, si je prends, par exemple, du lait au chocolat en récupération, ben, ça me prend quand même là, un petit peu plus que 500 ml pour atteindre au moins 20 grammes de protéines. Si j'y vais plus avec une pièce de viande là, ou un morceau de poulet, comme tu disais, par exemple, là, on peut y aller, si on a une portion d'autour d'un 90 grammes là, de viande cuite, on atteint assez facilement là, 20-25 grammes de protéines.
OK. Donc, mettons que je récapitule, là, si je m'entraîne, mettons, 30 minutes, puis que pour moi, c'est habituel de m'entraîner 30 minutes, fait que j'ai pas causé plus de bris musculaire là, que d'habitude. Est-ce que je me trompe ou j'ai pas nécessairement besoin de me soucier tant que ça de ce que je vais manger et boire après parce que j'ai pas des besoins nutritionnels qui sont tellement grands par rapport à ce que je vis d'habitude?
Exact. Exact. Donc, si j'ai fait une petite séance de 30 minutes, que pour moi, c'est un entraînement habituel, que je reviens et que j'ai pas l'impression d'être exténuée de mon entraînement. Ça a été un bon effort, mais sans plus. Ben, finalement, la collation, elle est peut-être pas nécessaire. Si j'ai faim, c'est correct de manger. Puis oui, d'aller chercher une collation qui contient un peu de protéines, des glucides, ça va être une collation complète qui va me rassasier, me soutenir plus longtemps. Si j'ai été peut-être m'entraîner sur mon heure de dîner, je reviens, puis finalement, c'est l'heure de dîner, ben, je prends mon repas standard, puis c'est bien correct. Mais si j'ai peut-être été m'entraîner dans le milieu de l'avant-midi, je finis, il est 10h30, 11h, ben, je n'ai peut-être pas plus faim que ça. Il n'y a aucun problème d'attendre le prochain repas à ce moment-là.
OK. Puis, tu sais, des fois, quand on fait des gros entraînements vraiment soit intenses ou longs et intenses, des fois, on revient puis on n'a comme pas faim. Là, on a été très sollicité puis là, on n'a pas faim du tout. Est-ce qu'il faut se forcer à manger dans ce temps-là ou est-ce qu'on peut attendre de ressentir la faim?
Ben, c'est vrai que les entraînements, des fois plus intenses, surtout peut-être par intervalle, on va avoir un effet un peu anorexigène dans l'heure qui peut suivre, par exemple, cet entraînement-là. Donc, c'est sûr que si on sait que ça a été une grosse séance qui a vraiment là, amené un bon déficit énergétique, qui nous a amené à travailler fort, oui, ça peut quand même être pertinent de prévoir ou de planifier une collation dans les 30 à 60 minutes qui suivent la fin de l'entraînement. Donc, la fenêtre là, optimale de récupération, c'est dans les 30 minutes suivant l'entraînement. Je ne suis pas obligée de manger 2 minutes là, après avoir fini ma séance. Je peux attendre 30 minutes après, puis il n'y a vraiment aucun problème. Ma récupération va être bonne quand même. Puis des fois, on peut y aller plus avec une option liquide aussi à ce moment-là. Donc, de se faire un petit smoothie, je mets des fruits, du lait ou une boisson végétale, du yogourt. Puis, ça me permet de me réhydrater. Ça permet de peut-être justement avoir quelque chose qui se digère un petit peu plus facilement. Puis ensuite, de me dire, bon, ben j'attendrai de avoir faim un petit peu plus tard pour prendre un repas complet. Là, ça peut être aussi une autre belle stratégie.
OK. Puis, est-ce que je me trompe ou c'est un peu plus important de se forcer, si on veut, à prendre une collation rapidement après un entraînement, si on s'entraîne, mettons, le lendemain? T'sais, si je me réentraîne juste dans 48 heures, je pense que ça a peut-être moins lieu d'être, non?
Effectivement. Donc, si on est quelqu'un qui s'entraîne peut-être 3-4 fois par semaine, des séances plutôt courtes, là, d'une durée de 1 heure ou moins, le fait de vraiment prévoir une collation de récupération dans un court délai, c'est moins nécessaire que si je suis quelqu'un qui m'entraîne à tous les jours ou même des fois deux fois dans la journée, ou si je m'entraîne par exemple en soirée, puis je sais que je retourne m'entraîner le lendemain matin. Donc, quand le délai entre deux séances est très court, 8 heures là, ou moins, eh bien là, c'est sûr que la collation de récupération, elle devient vraiment beaucoup plus importante pour nous aider à reconstruire nos réserves rapidement en vue là, d'avoir de l'énergie pour la prochaine séance. Si j'ai 2 jours avant mon prochain entraînement, juste mon cycle alimentaire usuel avec le temps va me permettre de bien refaire mes réserves d'énergie.
Puis mettons que j'ai ça, là, j'ai une séance, je m'entraîne ce soir, puis demain matin, j'ai une autre séance à faire. Est-ce que ça pourrait être intéressant, mettons, de commencer ma collation, je ne sais pas, manger une barre tendre là, qui contiendrait des noix, je donne un exemple comme ça, à la fin de mon entraînement, fait que mettons, je fais mes intervalles ce soir, puis là, dans mon retour au calme qui dure 20 minutes, là, dans le dernier 10 minutes, je commence ma barre tendre. Tu sais, est-ce que ça aurait un avantage supplémentaire ou comme ça a peu d'impact?
Non, je ne commencerai pas nécessairement pendant le retour au calme. Je te dirais si la séance d'intervalle est plutôt longue, parce que des fois, on a un échauffement, ensuite notre séance d'intervalle, notre retour au calme. Donc, des fois, on va être parti pour une bonne heure et demie. Donc là, ça peut être pertinent d'avoir juste un petit apport en glucides pendant la séance pour quand même pas épuiser nos réserves d'énergie ou finir la séance complètement lessivée et affamée. Donc, d'avoir un apport en glucides pendant cette séance-là, quitte à laisser une boisson sportive à un endroit si on fait des intervalles puis qu'on passe souvent là, à la même place, ou de dire, OK, ben, je fais mes intervalles, puis après, avant de partir pour mon cool-down, je m'assure de prendre un petit peu de glucides là, juste pour garder un bon niveau d'énergie pour le retour au calme, puis de vraiment prévoir là, la collation de récupération à la fin de l'entraînement comme tel.
Puis, si, mettons, je décide de boire une petite bière après mon entraînement, c'est-tu un problème, ça?
C'est-tu problématique? Ils nous en donnent aussi, des fois, on finit une course, puis ils nous donnent une bière. Donc, c'est sûr que l'alcool, c'est la seule boisson qui déshydrate. Donc, l'alcool va vraiment avoir un effet d'augmenter la diurèse. Maintenant, c'est de voir d'un côté relatif aussi, c'est quoi la quantité d'alcool que je prends, puis c'est quoi mon objectif aussi pour le lendemain. Donc, si je prends une petite bière en finissant mon entraînement, qu'à côté de ça, je prends un grand verre d'eau, puis que finalement, j'ai juste pris une bière, c'est pas si négatif que ça. Versus, si je pars sur le party, puis là, c'est une bière, 3-4 shooters, du vin, puis je prévois faire un autre entraînement le lendemain matin, là, ça risque d'être plus difficile, je vais être déshydratée. L'alcool, c'est un irritant digestif aussi, donc ça peut être plus difficile de ce point de vue-là. Mais tout est une question de quantité puis d'équilibre, je dirais.
OK. Fait que mais ça ne va pas m'aider, là, parce que tu sais, des fois, on dit que la bière, c'est des céréales liquides, mais c'est...
Ça ne va pas t'aider. C'est plus pour le plaisir personnel que pour vraiment t'aider dans ta récupération.
Good. Puis est-ce qu'il y a d'autres, tu sais, dans les trucs là, qu'on donne pour la récupération, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent? Parce que là, tu sais, tu nous parles beaucoup d'aliments comme de la vie de tous les jours là, depuis tantôt, tu sais, du lait au chocolat, du poulet. J'ai pas encore entendu de trucs magiques là, qui vont nous aider, tu sais, soit avant, pendant ou après l'entraînement. Est-ce qu'il y a des suppléments que tu trouves qui valent la peine d'utiliser avant, pendant ou après les entraînements? Mm-hmm.
Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas de truc magique, en fait, pour ça, je te donne raison. Donc, moi, souvent, la nutrition sportive, j'aime bien voir ça comme une pyramide. Puis, à la base de ma pyramide, je vais avoir toutes mes habitudes alimentaires du quotidien, mon équilibre dans ma journée. Puis, sur ça, je peux venir mettre mes stratégies de nutrition sportive. Puis, au sommet, la petite pointe, là, le 2% qui nous reste, là, on peut parler de suppléments. Et donc, évidemment, on ne construit pas une pyramide inversée en commençant par cette petite pointe-là. Donc, il faut vraiment s'assurer que mes stratégies alimentaires au quotidien sont bonnes, que mes stratégies avant, pendant, après, au niveau des aliments que je choisis, sont bonnes aussi, avant de penser qu'un supplément pourrait peut-être venir m'aider dans ma performance ou autre. Par la suite, il n'y a pas tant de suppléments que ça qui sont reconnus pour avoir un réel effet bénéfique. On a parlé brièvement là, des poudres de protéines. Donc, effectivement, ça, c'est le genre de supplément en récupération qui peut être pratique, qui peut être intéressant. Protéines de petit lait, qui est souvent celle qu'on voit revenir parce que, bon, il y a beaucoup d'études qui sont faites aussi sur ce produit-là. Quelqu'un qui est végétarien peut très bien aller vers une protéine végétale à ce moment-là, j'encouragerais de choisir une protéine où on a différentes sources de protéines végétales, donc une protéine de pois combinée avec une protéine de soya, par exemple, pour avoir un profil en acides aminés qui nous permet une récupération assez rapide. Sinon, au niveau des suppléments de performance comme tel, on a brièvement effleuré tantôt la caféine avec le café. Ça, c'est effectivement un supplément, oui, qu'on va retrouver sous forme d'aliments dans le café, mais qu'on peut retrouver aussi dans des gels énergétiques, dans des capsules. Donc, la caféine qui est quelque chose qui peut donner un effet bénéfique sur la performance. Donc, à prendre à peu près une heure avant un effort physique ou pendant, si on est sur des efforts de plus longue durée. Donc, autour d'un 300 mg de caféine là, qu'on peut répartir pendant l'effort ou prendre avant une course plus courte, c'est quelque chose qui, oui, on le sait, va avoir un effet bénéfique. Sinon, après ça, il n'y a pas de supplément miracle comme tel. On a vu passer là, une petite mode sur le jus de betterave. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui en consomment encore. Donc, le jus de betterave qui, oui, pourrait avoir un effet quand même intéressant. Donc, pourquoi le jus de betterave pourrait être intéressant? C'est parce qu'il va contenir finalement des nitrates qui vont aider le corps à produire de l'oxyde nitrique, qui est finalement un composé qui aide à la dilatation des vaisseaux sanguins, donc qui peut aider là, au niveau de la circulation de l'oxygène par la suite vers les muscles. On voit que dans les études, c'est surtout les athlètes plus récréatifs qui bénéficient de l'effet du jus de betterave sur leur performance. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant de regarder là, vers ce supplément-là. Vous pouvez acheter du jus de betterave en bouteille là, à l'épicerie. Par contre, la dose qui est recommandée, c'est un 500 ml à prendre le sur. Bon, on peut le faire en un protocole de surcharge quelques jours avant une épreuve, puis le matin même, là, quelques heures avant le départ. Mais 500 ml de jus de betterave, ça fait quand même une grosse quantité. Donc, il se vend aussi là, des concentrés de jus de betterave. Donc là, je pense que c'est un 60-70 ml là, de concentré de jus de betterave qui contient là, finalement la dose de nitrate pour avoir l'effet physiologique intéressant. Donc, ça, c'est un supplément qu'on pourrait essayer. Sinon, je dirais que c'est vraiment d'avoir une bonne stratégie d'apport alimentaire pendant l'effort aussi avec les gels ou les boissons sportives pour s'assurer de maintenir un niveau d'énergie qui est constant.
Cool, ben merci beaucoup. Hey, c'est des bons conseils. Moi, le jus de betterave, là, je ne sais pas si tu l'as essayé, moi je trouve que c'est pas très bon au goût. Là. Comme tu dis, la dose est très 500 ml de betterave. Là.
Tout à fait.
Bonne affaire que ça soit passé un petit peu cette mode-là, ça me convient oui. Parfaitement.
Ben, le petit concentré est moins pire, là. Ça ne goûte pas nécessairement meilleur, mais la quantité est moindre. Puis mélanger dans un smoothie avec des fraises, avec un autre jus de fruits, ça peut quand même passer un peu plus ni vu ni connu. Mais donc, effectivement, le goût, il faut s'y adapter. Il y en a qui aiment ça, mais c'est plus rare.
Ça existe.
Ça existe des gens qui aiment ça, oui.
Eh bien, merci Isabelle. En terminant, là, si on veut plus de tes conseils ou on voudrait soit te suivre sur les réseaux sociaux ou avoir une consultation, comment on fait?
Oui, ben en fait, j'ai une page Facebook, Isabelle Morin, nutritionniste. Donc, vous pouvez me trouver là, sur Facebook. Sinon, j'ai un site web aussi, isabellemorinnutrition.com. Donc, les gens peuvent là, accéder. Effectivement, je fais des consultations privées. Donc, je fais des consultations par visioconférence pour les gens qui sont aussi en dehors de la région de Québec. Là, j'ai beaucoup de clients un petit peu partout au Québec, donc c'est pas un problème. Et sinon, on peut m'écrire nutrition.morin@gmail.com. Donc, je prends mes courriels régulièrement. Ça va me faire plaisir de vous donner de l'information là, sur les services de conférence ou de consultation privée.
Cool. Ben, merci, Isabelle. On va aller suivre ça.
Oui, ben, ça m'a fait super plaisir de participer aujourd'hui. Puis, je souhaite bon entraînement à tout le monde qui nous écoute aussi.
Excellent. Merci beaucoup.
Salut.